Cap-Cap, Jacques Lavergne,
Gilles Labourroir.
Bonjour. Aujourd'hui, Cap-Cap thématique, et nous allons vous proposer une série d'émissions sur l'histoire des Jeux Olympiques. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous sommes deux au micro. Mon camarade Gilles Labourroir, qui est notre spécialiste d'histoire des sports, vient nous parler dans une série d'émissions et je l'accompagnerai. Il va nous parler de l'histoire des Jeux Olympiques. Alors nous allons faire trois, peut-être quatre émissions, je ne sais pas, mais le début de l'olympisme et l'émergence des nationalismes, ce sera le thème d'aujourd'hui. La série suivante, la saison 2, comme on dit maintenant, qui partira de 1948 à 1984, ce sera l'époque de la décolonisation et de la guerre froide.
Surtout de la guerre froide.
Surtout de la guerre froide. Et la troisième série, ce sera 1992 à aujourd'hui, la période contemporaine. Donc vous voyez, le sujet est extrêmement vaste. Gilles Labourroir maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Et donc, nous allons l'écouter. Alors Gilles, ces Jeux Olympiques,
1896. Ce sont les premiers Jeux Olympiques.
1896.
On dit une réinvention des Jeux antiques.
Voilà.
Voilà.
Eh bien écoutez, dites-nous tout.
Ah bah, 1896, il se déroule d'ailleurs à Athènes. Et les Jeux Olympiques, c'est une invention, on dit souvent, de Pierre de Coubertin, qui est né dans une famille assez noble en Normandie, qui a voulu faire Saint-Cyr. On est dans les périodes de 1880-1890 en France, à la fin du 19e siècle. Et donc, normalement, tout le prédestiné à faire une carrière plutôt, on va dire, militaire. Et puis, finalement, il quitte Saint-Cyr et il part pour l'Angleterre. Et en Angleterre, il est séduit par le modèle anglais. C'est un peu ça qui sera sa ligne directrice. Parce qu'en Angleterre, il voit qu'on joue au football, on joue au rugby. Et puis, surtout, le modèle anglais, c'est des gens un peu comme lui, c'est-à-dire des sportsmen. Sportsmen, à l'époque, c'est des assidus des hippodromes. Le matin, ils vont à l'hippodrome, ils font un peu d'équitation, du canoë, de l'escrime, de la boxe, pas de sport collectif. À l'époque, c'est des sports individuels. Ils découvrent, en effet, un peu les sports...
de l'élite, les sports, finalement.
Oui,
l'élite au moins financière.
L'élite financière, l'élite bourgeoise, aristocratique, à l'Angleterre. Il fera aussi un séjour aux États-Unis, mais il sera quand même énormément marqué par l'Angleterre. Et donc, en France, il faut imaginer que... lui, c'est un adepte du sport amateur. Il ne faut pas que de l'argent circule. Et pourtant, en Angleterre, en 1876, il y a une fédération anglaise professionnelle. Parce qu'il faut imaginer que les gens qui ne sont pas comme lui, qui viennent du peuple, les ouvriers, par exemple, en Angleterre, ils veulent devenir professionnels. Ils veulent devenir professionnels au football. Ils veulent devenir aussi professionnels au rugby. Mais la fédération, si vous voulez, anglaise de rugby reste amateur. Et c'est pour ça que se crée, en Angleterre, à cette époque-là, le rugby à 13, oui, dont on verra un peu les réminiscences plus tard en France, on verra, entre le débat amateur et professionnalisme. Donc de Coubertin, c'est vraiment un homme de son temps, je dirais. C'est-à-dire, le sport, c'est dans son ADN, on ne pourrait pas dire que c'est un grand sportif. Et puis, il est marqué quand même, on est après 1870, il est marqué quand même par la défaite de la France face à la Prusse. Les Français, contrairement aux Anglais et aux Allemands, ne font pas de gymnastique, ne font pas d'athlétisme. D'où la création, en 1872, il faut le rappeler, du bataillon de Joinville. Dorénavant, on aura des soldats gymnastes, des soldats athlètes, et l'armée s'en portera mieux. On est quand même dans l'esprit de la revanche, mais on a quand même un côté pacifiste. Chez Coubertin, on peut se réunir, fraterniser les peuples, et peut-être le sport est le meilleur vecteur. Donc pour cela, Il y a aussi un autre élément important à l'époque. On est dans une époque vraiment d'innovation. Il faut imaginer que la photographie démarre. L'innovation majeure, c'est les fouilles. Que fait la France, mais aussi que font l'Allemagne dans des pays comme l'Égypte, la Grèce. On a cette image des grandes fouilles françaises avec l'école française d'Athènes. Et Coubertin fréquente des gens qui font ces fouilles-là, qui sont des professeurs au Collège de France, comme Michel Bréal, qui a inventé plus tard le marathon, qui, comme Lambros, des historiens, des philologues, comme Gilieron, par exemple, il se lie d'amitié avec un grec, un commerçant grec, qui vient à Paris et qui fréquente le Collège de France, le Louvre, etc. Donc il est baigné, il y a un bain culturel où on redécouvre une Grèce rêvée, une Grèce ancienne, où il y avait, paraît-il, des jeux antiques qui s'y déroulaient du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle de notre ère.
Ah, c'est plus que paraît-il quand même, c'est
oui,
avéré
c'est
aujourd'hui.
Vrai. Hein. Mais on n'a aucune... c'est les fouilles qui amènent, par exemple, des vases qu'on remettait aux vainqueurs. Quand on dit que le marathon a été inventé en Grèce, par exemple, je m'arrête là 10 secondes sur le marathon, il n'y a aucune trace de Philippides, qui en 490 avant Jésus-Christ est à Marathon, lieu où les Athéniens battent les Perses, et puis il fait une quarantaine de kilomètres, soit par la montagne, soit par la mer, et il arrive à Athènes pour dire que les Athéniens ont gagné, et puis il s'épuise et il décède après, il n'y a aucune trace. Et, enfin, finalement, on a fait quelques découvertes, et c'est Michel Bréal, qui est un ami de Pierre de Coubertin, comme je le disais, qui était professeur au Collège de France, qui lui dit, écoute, je pense que tu peux, en 1896, faire quelque chose pour faire finalement une course qu'on appellerait le marathon. Alors, j'ai peut-être oublié de dire que les Jeux Olympiques d'Athènes, les premiers, c'est 1896. Mais en 1892, à l'Union française des sociétés athlétiques, donc des clubs amateurs, tout ça, Coubertin lance ce qu'on appelle son appel pour des jeux, pour une réinvention des jeux antiques, donc des jeux modernes. Et en 1894 est créé le CIO. Et justement, le CIO, il n'en est pas le premier président. C'est justement un Grèce, Vikilas, ce commerçant dont je parlais tout à l'heure.
Et pourquoi n'a-t-il pas été le premier président, justement ?
Alors, je pense, objectivement, je pense que la Grèce voulait les Jeux. Parce que la Grèce était face à l'Empire ottoman. La Grèce, d'ailleurs, dont on sait à l'époque, elle avait des forts liens avec l'Allemagne. Elle était endettée aussi à l'époque. Elle a voulu vraiment les Jeux. D'ailleurs, les Grecs ont toujours voulu que les Jeux soient tous les 4 ans chez eux. Et Coubertin, là-dessus, en fin diplomate, a fait que les Jeux... Il a voulu l'internationalisation des Jeux. Ce qui, dans un premier temps, n'a pas été une réussite. Parce que les Jeux à Paris en 1900, où les gens venaient, mais ils venaient observer la Tour Eiffel, ils venaient voir le Grand Palais, ils venaient voir une exposition universelle. Je raconterai ça peut-être plus tard, mais Emmanuel Picard était un républicain, l'organisateur de l'exposition universelle, il détestait Coubertin. Il lui disait, écoute, je te donne une demi-journée pour les épreuves d'athlétisme, tu me fais chier. Et puis finalement, Coubertin a été mal à l'aise. Et puis en 1904, quand les Jeux, il les a mis aux États-Unis, dans le Missouri, un état du sud, Saint-Louis, personne n'y est allé. Et même les gens, ils ne savaient pas qu'ils étaient champions olympiques.
Quelle idée d'aller les mettre là-bas.
Ah, c'est quand même l'Amérique. On sent quand même, on le verra peut-être tout à l'heure, 1904, il faut imaginer que les États-Unis émergent sur la scène internationale aussi. Et donc,
On aurait pu les faire à New York.
Oui, on aurait pu les faire à New York.
Aller chercher le Missouri dans le tréfonds de cette vieille Amérique, c'était quand même chercher véritablement la difficulté.
Oui, mais Coubertin, il est l'homme de son temps. Et si vous voulez, ce qui caractérise, on y reviendra peut-être plus tard, les Jeux de Saint-Louis dans le Missouri, c'est qu'on aimait vraiment la supériorité des Blancs. sur les autres races. On crée les jeux tribaux, ce qu'on appelle des journées un peu anthropologiques, où finalement, 2 semaines avant les jeux, on faisait faire des épreuves à des gens qui venaient de tous les États, des États-Unis, des Pygmées, des Indiens, etc. Et en fait, ces jeux ont vanté la supériorité des Blancs. C'est pas ce qui se faisait de plus extraordinaire. Voilà, mais enfin, on y reviendra. Mais enfin, en 1908, on revient quand même à Londres, d'accord ? Et là, les Jeux prennent de l'importance à Londres, voilà. Donc, Pierre de Coubertin, on le décrit aujourd'hui énormément. On peut dire que c'est l'homme de son temps. C'est vrai que quand on regarde sa vie, c'est vrai qu'il part après à Lausanne, qui est devenu et reste le siège du CIO. On le retrouve un peu, il était misogyne, il ne voulait pas de femmes au jeu. Par exemple, une femme a levé le doigt en 1896 pour faire le marathon, le fameux marathon oui. de 1896, elle a été exclue, mais elle n'y a pas quand même participé. Bon. Enfin, il a fallu attendre que Pierre de Coubertin se sorte du CIO pour qu'en 1920, les femmes soient acceptées en Anvers. Et en 1928, surtout à Amsterdam, en 1928. Alors, il n'était plus président du CIO, il était retiré à Lausanne, il était fatigué, il faut imaginer. La vie de Pierre de Coubertin, c'est quand même... il a eu 2 enfants handicapés. Bon, il finit un peu ruiné, quelque part. Beaucoup d'amis l'aident. Et on revient chercher Pierre de Coubertin. Il meurt en 1937. On revient le chercher 2 ans avant les Jeux de 1936 à Berlin, donc on vient le rechercher en 1935 pour lui dire « Est-ce que vous pouvez dire au monde que les Jeux de 36 seront bons pour l'Allemagne et bons pour le monde ?» quoi. Et il dit oui, il a une parole sonore, il y a des audios sonores qui disent « Les peuples vont s'entendre, les Jeux vont être beaux à Berlin. » quoi. Et un peu, c'est ce qui détruit sa légende quelque part. Voilà. Mais ceci étant, moi ce qui m'intéresse, c'est cette période de bouillonnement de cette culture sportive liée à ce bain culturel lié à l'école française d'Athènes, lié aussi à ce contexte de la France revancharde, mais aussi pacifiste jusqu'en 14. Période aussi des innovations technologiques, aussi la photographie. En 1896, il faut imaginer qu'il y a un photographe, Meyer, qui fait le voyage à Athènes. C'est le début du tourisme sportif, le début du tourisme social. Il faut imaginer que Cook, l'agence de voyage Cook, créée en 1741, Cook, finalement, fait un spécial « Allez, on se déplace à Athènes pour ces Jeux ». C'est pour ça que je dis toujours que 1896, ce sont de grands Jeux.
Alors comment on y allait à l'époque, en bateau ?
Oui, on y allait en bateau, oui, en effet.
Ça prenait un peu de temps.
Voilà, ça prenait un peu de temps. Les Jeux duraient un peu plus longtemps qu'aujourd'hui, une quinzaine. Il y avait... mais enfin bon, c'était des Jeux... Qu'est-ce qu'on retient de 1896 ? On retient peut-être le vainqueur du marathon. Spyridon Louis, un grec, un berger grec. Donc, il gagne en 2h54 minutes, ce qui est un temps honorable aujourd'hui. Hein, je rappelle le record du monde, 2h00.35 secondes. Il était comme son père, il approvisionnait l'eau à la ville d'Athènes. Après les Jeux, il récupérera le monopole. Hein, voilà. Mais Spyridon Louis est resté dans les mémoires. En 1936, il se déplace à Berlin.
Ils étaient nombreux à courir
Non, très peu. On va dire une trentaine, pas plus. Mmh. Hein, voilà. Mais les premiers marathons olympiques étaient épiques. Hein. Par exemple, on parlait tout à l'heure en 1900 à Paris, même en 1904, si vous voulez, les premiers marathons étaient très épiques. À Saint-Louis, par exemple, le vainqueur, c'est un Anglais, un Américain, je crois, Thomas Hicks. Oui, non. Il a été le premier à franchir la ligne hein, d'arrivée. Mais on s'aperçoit qu'il a été disqualifié parce qu'il avait utilisé une voiture durant le parcours. Voilà. Et le seul Français engagé de l'époque... Albert Corré, le seul Français qui a fait le déplacement à Saint-Louis, d'ailleurs, c'est drôle qu'on revienne à 1904, Albert Corré est fini second du marathon. Donc on était sur...
Sur ses premiers Jeux...
Alors Spyridon Louis, justement, je disais ouais. qu'en 1936, eh bien, il va amener un rameau d'olivier à Hitler, en symbole du marathon qu'il avait gagné en 1896. C'est important parce que on le verra tout à l'heure.
Il n'a pas tout compris, Hitler.
Mais l'Allemagne nazie, on le verra tout à l'heure, en 1936, récupère beaucoup, comme fait Coubertin, récupère beaucoup de l'Antiquité. On le verra tout à l'heure. Parce que la flamme olympique n'a jamais existé dans l'Antiquité, dans les jeux antiques. Dans les jeux antiques, il n'y avait simplement que de la lutte, du pentathlon, c'est-à-dire on faisait un peu de tout, on courait.
Donc aller allumer, comme on le fait aujourd'hui, une flamme, la transporter par bateau, la faire passer partout en France.
Ça, c'est Hitler. Enfin, quand on dit le régime nazi, Hitler n'était pas un sportif, il n'aimait pas le sport. Il disait que c'était une invention des francs-maçons et des communistes. Donc, si vous voulez. donc, par contre, Goebbels, qui était le chef de la propagande, lui, il avait compris l'enjeu des jeux. Et en plus, à l'époque, on le verra tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'innovations technologiques. Le travelling, la caméra. Catapulte. Enfin, il y a eu on se souviendra tous du film de Leni Riefenstahl, l'idée du stade, un film même à l'époque, etc. Je voulais vraiment dire quelque chose d'autre sur Pierre de Coubertin, parce que, pour revenir à Spyridon Louis, ce qui est important, c'est que, comme quoi l'histoire, c'est toujours concordance ou permanence de l'histoire. La Grèce a été envahie par les Allemands en 1941, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme quoi la géopolitique est sans doute à l'époque plus forte que le sport. Quoi.
On peut dire aussi qu'à notre époque, c'est le cas.
Oui, tout à fait.
Mais on verra ça à la fin de notre série.
Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, 1896, Pierre de Coubertin, c'était important de le signaler. Mais au même titre qu'il a été l'arbitre de la première finale du championnat de France de rugby en 1892, en juin, là où le Stade français bat le Racing Club de France, 4-3, c'était la première finale du rugby, nous qui sommes ici à Toulouse. Le rugby qui arrive au Havre en 1872, qui arrive par les ports et les universités, il arrive à Toulouse en 1889. C'était quand même le premier arbitre de cette finale de championnat de France de rugby. En un sens, c'est toujours intéressant, moi qui aime le rugby, de m'intéresser à Pierre de Coubertin sous cet aspect-là, quoi. Voilà.
Donc c'est lui qui a fait réémerger cette idée, qui l'a imposée. Ça n'a pas dû être simple au départ.
Non.
Mais ça, très rapidement, ça a pris, si je puis dire.
Oui, ça a pris. Ça a pris parce que. Je pense que le contexte de l'époque, il fallait, au fond, c'était, comme je dis, c'est une forme de pacifisme quand même qui se jouait à cette époque-là. La France était revancharde, certes, mais il y avait quand même Michel Bréal, j'en parlais tout à l'heure, l'inventeur du marathon, ce grammairien, ce philologue, ce prof au Collège de France, au Collège de France, oui, c'est ça. C'était des pacifistes, quand même.
C'était des pacifistes.
Donc, ils voulaient quand même que le sport soit...
Il y avait quand même une lutte, il y avait un enjeu. Oui. Il y avait, donc, c'est pas la guerre, mais c'est aussi le conflit par d'autres moyens, peut-être.
Oui, sans doute. Oui, on verra que c'est ça. C'est la guerre sans les fusils, oui, c'est vrai.
C'est déjà un grand progrès, quand même.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en plus, ce qui est important à l'époque, c'est qu'on regarde qui gagne les médailles, qui est premier au classement. Voilà.
Gilles, oui. On fait une petite pause musicale là pour souffler. Alors on va écouter Tiff, qui est un chanteur qui sera m'a-t-on dit, parce que ce que je ne vous ai pas dit en démarrant, c'est que nous avons toujours avec nous nos stagiaires journalistes Lydia et Mathis de l'IHJT, donc l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et Mathis nous a parlé de Tiff, qui va être la figure de proue de Rio Loco, c'est ça Mathis?
C'est ça la soirée du jeudi qui aura pour tête d'affiche donc Tiff, ce chanteur algérien.
Il y a moins de verres tombant chez moi, plus qu'un velasé. Moins de verres dans tes yeux quand t'as les pupilles dilatées. Elle voulait rentrer dans mon cœur, mais ne peut pas le pirater. Tu trouves que j'ai la gueule du mec qui va te courir après. Je suis loin de chez moi, je veux max de seuil. Je dirais, je veux pas de ce bête, je veux ton pétard, je veux pas de je t'aime. J'ai déjà de l'amour par le tel le soir, fatigué de ce d'elle. Elle passe le test sans même savoir, je casse le. En me disant que c'était pas la perle rare. Constant la paire de Nike, je pars pour pas te faire de mal. C'est nothing personal, juste une affaire.
ton palais. Tini viennent te faire mal pour ton paresse. Bis, je suis dans le sud de l'Est. Point, ne faut qu'un salaire. Tip, il me faut une paire d'as pour pas que le cœur pique. Prisonnier à l'air. C'est un peu plus nuancé. Tes souvenirs j'en ai fait des loupes. Qu'on savait pas trop je m'y enferme. On se fait du mal même si on s'aime. Même si on s'aime. Crois pas que la somme influence. Si je te sens pas jamais on signe. Plus je suis fort plus je suis imposable. Qui plus je vends cher la science. T'as plusieurs fois c'était qui on sait. Non non je suis pas ta clientèle. Quand je fatigue je prends la vie. On se part ou la passion si on s'aime. J'attends le soleil les plus s'enchaînent. Je me sens prisonnier à l'air, libre comme en palais. Team, ils viennent te faire mal pour ton paresse. Puis, je suis dans le sud de l'Est, pas une faut qu'un salaire. Jeep, il me faut une paire d'as pour pas que le cœur pique. Prisonnier à l'air.
Voilà, c'était Tiff, l'homme de Rio Loco, que vous pourrez écouter à la mi-juin sur les conseils de Matisse. Allons avec Gilles Labourroir, nous vous retrouvons pour parler de l'histoire des Jeux Olympiques et pour nous retrouver là vers 1900 à Paris.
1900, c'est les Jeux de Paris.
Voilà.
Voilà, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc c'est l'exposition universelle et comme je le disais, Pierre de Coubertin, il est vraiment humilié. Parce que finalement, le commissaire général de l'exposition, une forte personnalité, Alfred Picard, il décide d'organiser des concours d'exercice physique, mais vraiment, c'est que ça ne l'intéressait pas trop, l'idée que la défaite de la guerre franco-allemande est liée à la mauvaise condition physique des Français dans toutes les têtes, ce n'était pas sa thèse à lui, quoi. D'accord ? Donc lui, c'était on vient voir ce que la France a de plus beau, les films de Lumière, Le Petit et le Grand Palais, la Tour Eiffel. Il faut imaginer qu'à l'époque, il y a eu quand même 50 millions de visiteurs qui sont venus à Paris. On va dire que la France est à l'honneur, puisqu'elle gagne la plupart des médailles. En rugby, paradoxalement, la France, ils sont champions olympiques, puisqu'ils battent les Anglais et les Allemands, mais il n'y avait que trois équipes à l'époque. Le rugby faisait partie.
C'était une discipline olympique.
Oui, c'était une discipline olympique, le rugby. Parce que c'était un adepte quand même du rugby, Pierre de Coubertin.
Ah oui, il est allé en Angleterre.
Voilà.
Il avait...
Et les Français étaient emmenés par France Reichel et ils sont champions olympiques. Ils ont battu les Anglais et les Allemands. Il n'y avait que trois équipes. Et France Reichel, qu'on retrouvera plus tard dans l'organisation des Jeux d'hiver de Chamonix en 1924. Donc, à part le rugby, il y a bien sûr, comme fil conducteur, le marathon. C'est un franco-luxembourgeois, Michel Théato, qui est champion olympique.
On était sur la même distance.
Oui.
On a toujours été sur la même
Alors
distance.
Alors là, on est sur une distance qui est à peu près 40 km. Alors qu'on verra que c'est en 1908, on peut même le signaler maintenant, que le marathon obtient sa véritable mesure, 42 km 195. On est à Londres. Et pourquoi ? Parce que justement, la princesse de Galles, elle avait émis le souhait de voir de la terrasse de son château de Windsor le départ de la course. Et elle voulait, quand elle arrive, à l'arrivée, dans le stade de White City, elle voulait vraiment être présente à l'arrivée. Ce qui l'intéressait, c'était le départ à l'arrivée. Ce qui faisait en tout 42 195.
Donc ça vient tout simplement
des Anglais.
Ça n'a rien à voir
avec la Grèce antique.
Non.
Philippides, comme je disais tout à l'heure, il a fait à peu près une quarantaine de kilomètres. C'est pour ça que. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de courses. Les gens faisaient des courses. Il y avait du Paris-Brest, du Paris-Versailles, même la course des midinettes, les demoiselles du textile, là, qui étaient alertes, vives, on disait à l'époque célibataires, fortes têtes, tout ça, elles faisaient des courses.
Il y avait même la course des garçons de café dans Paris.
Voilà, exactement. Donc, il faut imaginer que la course à pied à l'époque, c'était même des courses professionnelles pour certains. Donc là, on a, en 1908, on a normalisé le marathon olympique, quoi. Voilà. Mais justement, à cause de cet effet, ce qui est important, puisqu'on est à Londres, là, puisque finalement, 1904, Saint-Louis, on peut le laisser tomber, on en a parlé un peu tout à l'heure, ça n'a pas été de grand jeu. On est en 1908 à Londres, et dans ce marathon, il y a quand même la légende d'un coureur italien, Dorando Pietri, qui est un homme de 22 ans, d'Émilie-Romagne. C'est toujours des histoires. Je m'intéresse toujours à l'histoire du sport à travers des itinéraires. Et donc lui, il arrive sur le stade et il est vraiment très fatigué. Il tombe plusieurs fois, les spectateurs le ramassent, etc., etc. Et il franchit la ligne d'arrivée, certes le premier, mais comme il a été porté, il fait le même temps que Spyridon à Athènes, 2h54. Il est disqualifié, puisqu'il a été porté. Au profit d'un Américain qui est arrivé derrière lui. Mais comme je le dis souvent, ça fait beaucoup couler d'encre cette course. Et ce qui est bien souvent, c'est que d'un échec, on en fait un succès. Et tout le monde s'intéresse à lui. Donc il va aux États-Unis, il faut imaginer l'immigration italienne aux États-Unis. Donc il vient d'une famille paysanne, d'Émilie-Romagne, il se retrouve, il était boulanger, apprenti boulanger, il se retrouve aux États-Unis en train de faire des courses professionnelles. Et il est devenu une célébrité, et voilà, c'est un échec qui est la clé de son succès. Et puis, il fait fortune, il revient au pays, et comme toute histoire, finalement, ce qui m'intéresse un petit peu, dans le sport comme ailleurs, il est mort dans l'anonymat le plus complet en 1942. Mais il faut imaginer qu'il y avait l'Italie, à cette époque, avait d'autres soucis, et c'était la guerre mondiale.
Voilà. Pas de souci principal.
Donc, en 1908... L'histoire de ce marathon, c'est quand même important. Je retiendrai quand même une histoire française. André Géot, qui est un athlète, qui est sauté en hauteur, 4 fois 400 mètres. Ils étaient éclectiques à l'époque, les joueurs. Polyvalents, il faisait du rugby, il était en équipe de France de rugby, mais il faisait aussi de l'athlétisme. Il a été blessé en 1914 et en 1943. On parlait tout à l'heure de 42. En 43, il est mitraillé en Tunisie, après avoir rejoint les combats aériens dans la libération de Tunis. D'accord ? Et l'histoire, on la verra plus tard, mais son fils, qui sera dans la célèbre escadrille Normandie-Niémen, participera aux Jeux de Londres en 1948. Oui. Sur le même stade que son père avait couru.
Il y a une filiation.
Oui, il y a une filiation. Puisque les Jeux de Londres, de la reconstruction, en 1948, se sont déroulés comme ceux de Londres en 1908. Voilà, là, on était dans l'Angleterre, j'allais dire coloniale, mais est-ce que c'est le mot ? C'est que l'Angleterre domine le monde. C'est une capitale mondiale. Londres est une capitale mondiale, impériale. Je veux dire, les colonies, à l'époque, c'est l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que le total anglais... C'est presque 200 médailles, c'est presque les trois quarts des médailles.
Ça veut dire que les natifs des colonies concouraient.
Pour la Grande-Bretagne.
Pour la Grande-Bretagne. Donc ils ne concouraient pas sous leur propre couleur.
Non, c'est des pays qui n'ont pas accédé encore à l'indépendance.
Voilà. C'est bravo le colonialisme.
Oui, on est dans la phase, où Londres, on affirme vraiment la puissance anglaise. Voilà, c'est incontestable.
Ça veut dire que déjà, les Jeux, quand même, servaient la politique et la géopolitique.
Tout à fait. La France, en 1908, pour donner un ordre d'idée, elle obtient 19 médailles, donc 5 titres. Mais bon...
19 médailles contre, pour l'Angleterre,
179.
La différence est quand même assez saisissante.
Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, on voit émerger quand même le monde tel qu'il va venir. Ça veut dire, le meilleur coureur... C'est un Indien, Norman Pritchard. Les États-Unis, le premier noir à représenter les États-Unis, c'est en 1908 à Londres, dans le relais 4x4. D'ailleurs,
Il va
le gagner, oui, dans le relais 4x4. On est quand même dans l'espoir d'une égalité raciale aussi à l'époque. Hein, et il s'appelle John Taylor et il décède à 26 ans d'une pneumonie typhoïde. Donc, enfin.
Ça veut dire que ces jeux, c'était à la fois l'utopie oui. et puis un réalisme politique.
Tout à fait. Tout à fait. Tout de même, Coubertin, à l'époque, il avait une carte géopolitique du monde dans sa tête. Je pense qu'il était bon aussi dans ce niveau-là. Parce que.
Quel était son métier à Coubertin ? Parce qu'on a beaucoup parlé
de. Il n'avait pas de métier. Il avait fait des études.
Donc il avait une fortune personnelle.
Oui, il avait une fortune personnelle. Il y avait un château en Normandie. Il avait une. Oui, bien sûr. C'était l'aristocratie de l'époque. L'aristocratie qui faisait du sport. Je veux dire, ce n'étaient pas les paysans qui faisaient du sport.
Oui, il fallait donc, avoir le temps.
Il faut aller avoir le temps. Le temps, l'argent. Il avait surtout des réseaux. Voilà. Parce qu'il faut quand même avoir des réseaux, il faut connaître des gens, il faut savoir attraper, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, un grec, Vicolas, c'est un commerçant grec qui s'intéresse à la littérature française. Il faut connaître, par exemple, pourquoi les Jeux en 1912 à Stockholm. Bon, il faut savoir que la Suède, c'est le modèle de la gym à l'époque. Donc il faut savoir ça pour pouvoir attribuer les Jeux à Stockholm en 1912, par exemple.
Alors qui c'est qui les attribue à l'époque ? Toujours le CIO ?
Le CIO.
Voilà,
le CIO.
Sur demande des pays qui
pouvaient. Oui, mais à l'époque, il y avait très peu de pays. On essayait d'étendre. Stockholm, c'était quand même incontournable. Parce que Stockholm, c'est pas loin de la Finlande. La Finlande va émerger dans le demi-fond avec des athlètes comme Paavo Nurmi. La Finlande, c'est très important, les pays scandinaves à l'époque.
Alors, on parle là des Jeux Olympiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui d'été. Oui. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait des Jeux Olympiques divers ? Ça n'existait pas.
Non, ils apparaîtront en 1924 à Chamonix. Justement, d'accord, j'en parlais tout à l'heure. Voilà.
Je ne veux pas déflorer votre propos, mais c'était une curiosité.
Mais ce qui est important, puisqu'on est, c'est un autre aspect de Coubertin, c'est que lui, ce qui l'intéressait, c'est, et on le verra énormément en 1912, c'est qu'il voulait aussi que les sports soient accompagnés d'épreuves d'humanité, comme la littérature, la musique, la peinture, la sculpture et l'architecture. Donc ça, c'est le point central de Coubertin. Par exemple, en 1912... c'est lui qui, en fait, le vainqueur de la littérature en 1912, ce n'est autre que Pierre de Coubertin. Voilà, donc on appelait ça le pentathlon des muses, ça a intégré le programme des Jeux, mais en fait c'est une fraude littéraire, hein. L'auteur de l'œuvre couronnée, c'est en fait Coubertin lui-même. Et en fait...
Il y a quand même un peu ouais, de...
Mais on sent que la littérature, la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture n'ont pas leur place dans les Jeux Olympiques du sport, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il y a la marchandisation de l'art qui apparaît dans les années 30. On cite souvent, en 1934, le jury musique. Il se compose d'auteurs importants, Ravel, Faure, Honegger, Bartok. Ils décernent personne, parce qu'ils considèrent que c'est nul. Que les œuvres ne sont pas bonnes. Et en littérature, c'est pareil. On le verra en 1924 à Paris. Le jury, il est composé de littéraires connus, Giraudoux, Claudel, D'Annunzio, une ou deux femmes pour faire... voilà. Mais si vous voulez, je crois que c'était le Français-Henri de Monterland qui était favori, mais il n'a pas eu le prix. On l'a attribué à quelqu'un qui est un inconnu. Et depuis... Ces jeux, on va dire, des humanités, ont été abandonnés en 1948. Voilà.
Donc, en fait de culture, on s'est contenté donc de la culture physique.
Voilà, exactement. Parce que et oui, en effet. Voilà.
Alors là, on est à Stockholm.
Stockholm en 1912, évidemment. Il y a l'émergence des coureurs finlandais. Et justement, il y a une histoire française quand même, Jean Boin, qui est deuxième du 5000 mètres, derrière un Finlandais, Colin Mainen.
Alors Jean Boin est surtout connu aujourd'hui par le stade Jean Boin.
Voilà, exactement, mais à l'époque, il est connu aussi, parce qu'il meurt sur le champ d'honneur le 29 septembre 1914, à l'âge de 26 ans, lors de la première bataille de la Marne. Donc il rejoint de nombreux sportifs français... mort à la guerre de 14-18, il avait demandé à être dans les unités combattantes, alors qu'il aurait pu s'occuper de la formation physique des soldats. Donc c'était Jean Boin, bon, on est à Marseille. Son instituteur n'était autre que le père de Marcel Pagnol. Et puis, c'est l'ascension par le sport. Hein. Il travaille dans une banque, d'abord à la Société Générale à Marseille, puis monte à Paris. Au départ, c'est un haltérophile, rien à voir avec un coureur de demi-fond. Et puis, il fréquente, ça se faisait à l'époque, il fréquentait, franchement, il allait chez lui voir le boxeur Georges Carpentier. Il fréquentait les artistes de l'époque, Maurice Chevalier, Mistinguette. Parce que les combats de boxe et de spectacles de music-hall font à l'époque bon ménage et le peuple, il aime ça. On aime aller voir des spectacles de boxe, de music-hall. Jean Boin, c'est quand même une histoire française qui rejoint des gens. Je ne sais pas s'il faut le dire là, mais moi, je suis toujours impressionné par ces gens morts à la guerre. Comme actuellement des Ukrainiens médaillés d'or à des Jeux qui sont morts lors de ce conflit avec la Russie. Il faut signaler Roland Garros, qui est quand même descendu par les Allemands en 1918 dans le ciel des Ardennes. Aimé Giral, Alfred Messonnier, le champion de France avec Toulouse en 1912, capitaine de l'équipe d'ailleurs du 15 de France, atteint d'une balle en plein cœur dans la première bataille de la Marne. D'ailleurs, tous ces morts en héros qui sont au monument Héraclès de Toulouse. Mais à l'époque aussi, je disais tout à l'heure, le vélo, c'est la passion française. Le vélo, moi, ça me fait toujours quelque chose de revoir des gens comme Petit Breton qui a gagné le Tour de France en 1907-1908, François Faber qui a gagné en 1909, Octave Lapize en 1910, sont décédés sur le front. Ils sont morts sur le front, sans oublier... ça, vous le savez, Jacques, Charles Péguy, Alain Fournier ou Guillaume Apollinaire, pour ne citer qu'eux, par exemple.
Pour revenir à l'olympisme, vous venez de parler de vélo, il y avait aussi des épreuves cyclistes?
Non. Oui, il y avait des épreuves de cyclisme, excusez-moi. Et il y avait aussi, ce qui est remarquable, en 1900, j'ai oublié de le dire, une épreuve d'auto. On faisait un Paris-Toulouse-Paris.
En voiture?
Ou en voiture. Voilà.
Avec les voitures de
l'époque. Et les Français étaient les meilleurs. Hein. C'était les Panhard, les Citroën, etc. Mais ça a été abandonné après. Les épreuves de vélo, oui.
Vous avez également parlé de rugby et vous aimez beaucoup le rugby.
Oui.
À Stockholm, par exemple, il y avait aussi, il y a eu du rugby pendant les Jeux Olympiques. Il ne devait pas y avoir beaucoup d'équipes à l'époque, surtout qu'à Stockholm, j'imagine que les pays nordiques n'étaient pas du tout représentés.
Oui. À Stockholm, je pense qu'il n'y a pas eu de rugby. Voilà. Il n'y a pas eu de rugby. Ça revient en 1924.
Voilà, il n'y avait pas toujours les mêmes épreuves.
Non. Ça fluctue énormément. Oui, on voit qu'il y a des épreuves qui. L'haltérophilie, elle apparaît, puis elle disparaît, elle revient. Vous voyez, la lutte, pareil. Enfin, souvent, il y a les épreuves collectives, les épreuves de sport collectif. Elles viennent et elles repartent aussi. Oui, en effet, c'est comme ça.
Donc ça veut dire qu'on se cherche, on n'a pas
encore
figé.
Bien sûr.
Le périmètre des sports.
Et il faut codifier le sport. C'est ce que dit Vigarello dans son œuvre.
Et qui c'est qui opérait le choix là? C'était les membres du CIO?
Oui, les membres du CIO et les fédérations.
Ils étaient désignés comment, les membres du CIO de l'époque?
Par cooptation, par connaissance. C'était des gens de bonne famille dans les pays. Ils dirigeaient des sociétés, des fédérations naissantes de sport à l'époque. La Fédération française de rugby, elle naît en 1920. La fédération de hockey aussi. Les fédérations, elles s'émancipent de l'union, de cette fameuse union française des sociétés athlétiques qu'à un temps dirigeait Coubertin. Donc chaque fédération maintenant veut son autonomie. On est dans les années 10, dans les années 20. Je pense que c'est important de le signaler quand même.
Alors Stockholm, donc 1912,
oui.
Et nous passons en 1916.
Alors 1916, pas de Jeux Olympiques parce qu'il y a la guerre,
ouais.
Mais ils auraient dû se dérouler à Tokyo.
Tiens, d'ailleurs, on dit tous les 4 ans,
oui.
Se déroule tous les 4 ans. Qui c'est qui a décidé qu'il se déroulerait que tous les 4 ans?
Alors, c'est au départ, Vikilas, ce fameux commerçant grec dont on parlait tout à l'heure, il voulait que ça soit tous les 4 ans en Grèce. Et Coubertin a voulu que ça soit tous les 4 ans ailleurs. Et c'est lui qui l'a emporté. Malgré ses premiers échecs, parce que les Jeux étaient liés aux expositions universelles et il avait la part pas la plus belle. Mais petit à petit, c'est resté tous les 4 ans parce que les Grecs voulaient refaire quelque chose à Athènes. où, après les 10 ans de 1896, on est en 1906. Et il y a eu ce qu'on appelle les messages olympiques. De nouveau à Athènes. Et c'est là où Coubertin s'est dit, oui, les Grecs sont aussi malins, parce qu'ils voulaient aussi, même s'ils avaient perdu diplomatiquement la mise en cédant les Jeux, parce que finalement, ils voulaient que ça soit chez eux tout le temps. Bon, ils ont donné quand même des idées à Coubertin. Donc Coubertin a modernisé les Jeux, incontestablement. Et puis, on le verra, il a repris au fur et à mesure des éléments de la Grèce antique. La vasque a été... On a construit des stades, d'abord, comme à Athènes. On a créé la vasque à Amsterdam en 1928, où on allume le feu. Donc, on a, on le verra tout à l'heure, en 1936, les Allemands sont allés aussi chercher beaucoup de choses dans le relais de la flamme.
Ça plaisait aux gens à l'époque, c'était très suivi. Alors, il n'y avait pas les moyens de couverture que la presse a aujourd'hui.
Oui. Il y a des moyens, la presse est naissante. Hein. L'auto, le vélo d'abord, 1892, le vélo et l'auto. Il y avait de la radio, la presse écrite très importante. La presse écrite très importante, je sais pas, le combat de Carpentier quand il a été champion du monde. La presse très très importante, la radio aussi, naissante.
Les gens suivaient.
Oui, énormément. Voilà, je rappelle, hein, c'est l'auto, une dissidence du vélo, qui en 10 ans après a créé le Tour de France, le premier Tour de France en 1903. Donc c'est la presse qui crée l'événement. Donc les gens sont demandeurs.
Ça veut dire qu'à l'époque, on ne faisait pas trop de sport, c'était pas... Et certainement, les jeux et la couverture de presse a dû amener les gens dans les fédérations, j'imagine.
Tout à fait. Mais il a fallu que les jeux s'imposent aussi par rapport à des championnats de foot, je sais pas, la Coupe de France qui a été créée, on le sait pas, mais elle a été créée par des soldats sur le front de la guerre 14-18, elle émane de là, cette idée. Des gens qui venaient de toutes parts de la France et qui ont eu cette idée de créer la Coupe de France. Eh bien, il fallait aussi se positionner par rapport à des événements. La première Coupe du monde de football a lieu en 1930 en Uruguay. Bon, il faut se positionner aussi. Il faut se positionner vis-à-vis des sports nationaux. Le rugby prend de l'importance aussi. Les champions de France, le football aussi prend de l'importance. Il faut se positionner. L'idée est bonne parce que c'est quand même l'histoire. Ce sont tous les jeux quand même. Et voilà, c'est.
Donc 1916, Tokyo qui n'a pas lieu.
D'accord.
Et qui nous ramène en 1920.
20. Et on donne. De Coubertin donne les jeux en vert. Et ça, c'est simple, c'est parce qu'ils sont attribués à la Belgique pour les souffrances infligées au peuple belge durant la Première Guerre mondiale. Et c'est là où De Coubertin a une bonne idée. C'est la naissance des 5 anneaux olympiques.
Ah, ça n'existait pas avant.
Non. C'est aussi la naissance des premiers Jeux olympiques d'hiver.
Dans les 5 anneaux, chaque anneau représente
un continent.
Un continent.
Voilà. Donc là, Suzanne Lenglen, on pourrait dire, en 1920, elle remporte le simple et le double mixte. Elle deviendra professionnelle aux États-Unis. Tennis, oui.
Qui était une discipline olympique.
Oui, bien sûr.
Il n'y en avait pas tellement au départ.
Non, n'a plus été une discipline olympique. Elle est revenue discipline olympique en 1988 ou 1992. Quand on a ouvert, on le doit au président du CIO, Sam Aranche, dans les années 80, après les Jeux de Moscou, 1980, on a ouvert aux professionnels. Les Jeux olympiques ouverts aux professionnels. C'est un pas énorme, quoi, je veux dire.
Ça veut dire que l'argent rentrait...
Ah, l'argent, 84, on en discutera. Hein, je veux dire, Los Angeles, 1984, oui. Séoul, Barcelone. C'est, quand vous imaginez l'équipe de basket américaine en 92, bon, c'est les meilleurs joueurs de NBA, de basket. Oui. C'est impressionnant, quoi. Donc
1920, on est en vert, se relève de la guerre. Hein,
tout à fait.
Et on essaye de reprendre vie, de revenir à quelque chose de plus léger que la guerre.
Voilà, et on arrive à 1924, qui est Paris. Et là, Coubertin veut sa revanche. Il veut vraiment des Jeux à lui, et ça sera un succès. La France d'abord est troisième au niveau des classements des médailles, derrière les États-Unis et la Finlande. Bon, la Finlande qui fait émerger un coureur extraordinaire, qui s'appelle Paavo Nurmi, qui a été vraiment le plus grand coureur de l'époque. C'est un Finlandais, on y reviendra tout à l'heure. Alors, les Américains, ils battent quand même en 1924 les Français en finale, hein, en rugby, 17 à 3.
Ah.
Et le rugby...
Ça va faire mal, ça.
Ouais. Donc après, on n'entend plus parler de rugby. Parce que,
mais les Américains jouent au rugby ?
Oui, bien sûr. Les Américains jouent au rugby. Je l'ai raconté dans une émission de sport, ça m'a toujours impressionné, parce que les Américains n'aimaient pas les Anglais, donc ils ont inventé ce qu'on appelle le football américain.
Oui.
Parce qu'ils ne comprennent rien à la mêlée. Vous voyez, c'est trop anglais. Et puis, finalement, les All Blacks, quand ils sont venus, les All Blacks, les fameux All Blacks, quand ils sont venus faire une tournée en Europe, ils ont battu les Français, les Anglais, les fameux All Blacks de l'époque, en 1910, ils sont venus, avant que certains aient eu sur le front, en 14-18, soutenir la France. Ils sont passés par les États-Unis au retour. Ils ont infligé une telle défaite aux Américains que les Américains, ils sont revenus aussi au rugby. Donc, ils sont revenus au rugby et dans les universités, évidemment. On ne parle pas du peuple. Et puis, à un moment, par un retour de l'histoire, le football américain a repris son importance et on le voit aujourd'hui dans certains États. C'est vraiment une religion, le football américain.
Donc, 1924, aux Jeux Olympiques, on prend une déculottée.
Oui, contre les Américains. Alors là, on n'entend plus parler de rugby aux Jeux. Peut-être parce que c'est considéré comme un sport d'hiver. Ça disparaît du programme olympique. Moi,
pourquoi
je pense.
D'hiver?
C'est un sport d'hiver. C'est un sport où on joue de novembre à juin. Et les Jeux Olympiques, c'est au mois d'août, vous voyez. Donc, mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de bagarres générales à l'époque. Ce n'est pas codifié encore. Et vous savez, les Français, dans les années 30, seront exclus du tournoi des 5 nations. Parce que trop violent. Donc, finalement, ils disparaîtront. C'est pour ça que le jeu à 13 a pris son importance dans les années 30 en France, il faut le savoir, avec le Front Populaire. Je le dis souvent, ça. C'est une histoire qu'on ne connaît pas. Mais on a supprimé le rugby, donc on jouait au jeu à 13. À Quillan, à Toulouse, à Bayonne, à Dax, partout dans la France.
À Perpignan,
etc. Et puis, Vichy a amené un ministre des Sports, Borotra, dans la première période, et surtout un sénateur basque, Ibarnegaray, les valeurs de virilité, il fallait retrouver le rugby à 15. Et donc, premières choses que Pétain a fait quand même sur le sport, c'est supprimer le jeu à 13. Il supprimera le ping-pong, mais il supprime surtout le jeu à 13.
Mais c'est quand même assez viril le jeu à 13.
Oui, mais c'est symbole de la République. Ah. C'est symbole de ces pays. Voilà. Donc, si vous voulez, et en 1945, le rugby à 15... on aura peut-être une mauvaise période, on va se le dire, puisque finalement, c'est à la Libération, le jeu à 13 va reprendre un peu de l'importance. Non, c'est le rugby à 15, on passe sur l'histoire, ça reste le rugby à 15, et le rugby à 13 reste le parent pauvre. Il reste dans les contrées cathares, que vous savez, et donc finalement, il ne retrouvera pas son influence.
Sachant alors, quand même que les cathares n'ont jamais joué au rugby. Hein.
Oui, c'est vrai, non, mais j'ai dit dans les pays cathares de tradition, ouais.
Alors je vous ai détourné, là.
On était sur le rugby, parce que finalement, les Jeux Olympiques et le rugby, ce serait une thèse en elle-même, presque. Mais enfin, il y a de bons spécialistes ici, sur Toulouse, pour en parler. Le tennis... Je parlais tout à l'heure de Suzanne Lenglen, c'est les quatre mousquetaires, Jacques Brugnon, ouais. Henri Cochet, René Lacoste et Jean-Robert Rotra.
C'est lui qui a été ministre de
Ministre des Sports sous Pétain, de 40 à 42, durant la période un peu, on va dire, la moins dure.
Suzanne Lenglen, tout le monde la connaît sans la connaître, parce qu'on parle toujours du cours Suzanne Lenglen
à Paris, Roland-Garros.
À Roland-Garros. Ouais. Mais peu de gens savent qui elle était, ouais. Peut-être.
Roland Garros, qui n'a rien à voir avec le tennis, hein, vous le savez. C'est un aviateur qui est un ami de quelqu'un qui a donné son nom 10 ans après la guerre, qu'il soit décédé, pour donner son nom de... Voilà. Oui, Suzanne Lenglen, elle est quand même foudroyée par une leucémie à 39 ans. Ce sont quand même des vies et des destins un peu brisés. C'est ombre et lumière à chaque fois. C'est lumière et ombre. C'est la vie, quelque part.
C'est le sport ?
C'est le sport.
Est-ce que c'est le sport qui occasionne...
Moi, j'ai une vision romantique du sport. Incontestablement.
On le sent.
Objectivement, il y a le côté de lumière et tout de suite après, il y a l'ombre. On le verra. Les Jeux Olympiques, c'est ça aussi. Que l'on regarde Cassius Clay, que l'on regarde d'autres personnes. Voilà. En tout cas, Pierre de Coubertin, il prend sa revanche en 1924 et émerge aussi Johnny Weissmuller, par exemple, le nageur.
Oui, Tarzan.
Tarzan, en effet, qui gagne, qui bat le record du monde du 100 mètres en moins d'une minute, qui gagne, qui est le premier homme, ça m'a toujours impressionné, sous la minute au 100 mètres nage libre. Et après sa carrière de nageur, il trouve la célébrité au cinéma en remplaçant Ditton, un champion de lancer de poids, qui était pressenti pour le rôle, plus que Tarzan quand même. Et finalement, Tarzan...
C'est Johnny qui va...
Il s'impose en donnant à Wes Müller ce rôle du roman de Burroughs.
On sent l'amour que vous avez pour le sport. On écoute Brel, justement, pour faire une petite pause, une petite coupure. Et en parlant d'amour, Brel est quand même bien placé pour ça. Il l'a fait superbement bien.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Voilà, Jacques Brel, quand on n'a que l'amour, et l'amour du sport de Gilles Labourroir est bien connu sur notre antenne. Et donc, nous revenons à notre histoire des Jeux Olympiques, sous la férule de Gilles, et nous nous retrouvons maintenant, Gilles, à...
Alors, on était en 1924 à Paris, et maintenant, 4 ans après, en 1928, on est à Amsterdam. Alors, Amsterdam... Bien sûr, ce qui est intéressant à dire, c'est que ce sont les femmes qui apparaissent.
Donc c'est la première fois, il n'y en avait jamais eu avant.
Non, il n'y en avait jamais eu. Justement, il y avait une femme qui s'est opposée un peu à Pierre de Coubertin. On va dire que c'était la grande instigatrice de l'athlétisme féminin en France. Elle s'appelait Alice Millias, elle est née en 1884. Elle a vécu à Londres, donc, et elle avait une passion pour le sport féminin. Et elle avait demandé à Pierre de Coubertin, en 1920, de mettre des femmes. Il avait refusé. Donc, en 1928, aux Jeux d'Amsterdam, il y avait, Coubertin n'étant pas là, il y a eu des épreuves féminines. Quelques épreuves d'athlétisme sont ouvertes aux femmes, par exemple le 100 mètres, le 800 mètres, la hauteur, le disque, le relais 4 fois 100 mètres. Voilà, bon... On va dire que Coubertin était éloigné des décisions. Il était parti sur Lausanne, il était fatigué. Voilà. Et on verra que c'est 1936 qui voit l'apogée de son œuvre avec un sport féminin qui explose, incontestablement. Bon, on va dire que c'est très bien. Et surtout en 1948. si on commence 1958 les Jeux Olympiques, la prochaine fois, on commencera par une star hollandaise d'ailleurs, Fanny Blankers-Koen, qui est une coureuse de 400 mètres, et Micheline Ostermeyer, une française, discobol et pianiste. On verra ça la prochaine fois. Donc les femmes sont sur le devant de la scène. Chez les hommes, j'ai retenu Jules Ladoumègue. Bon, c'est l'époque où apparaît quand même les suspensions par la Fédération française pour professionnalisme. Si vous voulez, il est... Alors, Ladoumègue, son histoire m'interpelle toujours. C'est un Bordelais, son père était contremaître sur les docks. Il n'a pas de chance. Son père est écrasé par une énorme masse de bois sur le port. On va dire, voilà, alors qu'il prêtait main forte à des ouvriers... Et 17 jours après sa naissance, Ladoumègue perd sa mère.
Donc il est orphelin.
Et sa mère est brûlée vive chez elle. Donc il est orphelin. Le sport, c'est pour lui. Voilà. Je veux dire, à 12 ans, il quitte l'école communale, il devient apprenti jardinier, il s'occupe des plantations à l'hippodrome de Bordeaux. Il est son modèle, c'est Paavo Nurmi, on n'en a pas trop parlé. C'est le grand coureur finlandais qui a tout raflé en 1924 à Paris. Il laisse échapper la médaille d'or justement contre Nurmi au jeu d'Amsterdam sur 1500 mètres. Il finit second. Il avait attaqué prématurément, on dit, vous voyez ce que je veux dire. Donc il se fait avoir. Et après, il aura une grande carrière athlétique. Et puis finalement, ce Ladoumègue-là, ce qu'il fait, c'est que il va aux États-Unis, et puis on le retrouve aussi à Los Angeles, à quelques mois des Jeux. Il est le grand favori, mais il est disqualifié. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il est devenu, entre-temps, professionnel. Et quand il revient plus tard en France, il avait 37 ans, il revient en 43, quand il est requalifié par la Fédération française d'athlétisme, mais bon, c'est trop tard pour refaire une carrière. Donc, il deviendra journaliste sportif, de grand talent. Moi, j'ai écouté des fois des audios sonores, là, vraiment, de Ladoumègue. C'était le journaliste qui préfigure la grande époque des Marcillac, etc., etc. Et il est mort en 73, à l'âge de 66 ans. C'est jeune, quand même. Et la deuxième grande performance française, c'est Bouguera El Ouafi. C'est un Algérien, enfin, un Franco-Algérien, donc, qui gagne le marathon. En 28, à la surprise générale. Il avait fini 7e en 1924 à Paris. Et là, il l'emporte vraiment très fort. C'était un ouvrier spécialisé aux usines Renault. Voilà, d'origine algérienne. Il est né en 1898 à Biskra, en Algérie. Il s'entraînait tout en étant ouvrier. Précisément, je crois qu'il était décollecteur. C'est un métier qui consiste à usiner des boulons et des rivets pour les voitures. Donc, on l'a redécouvert. C'est El Ouafi, parce qu'on l'avait oublié, complètement oublié. C'est Mimoun qui le redécouvre, parce qu'il l'aide, parce qu'il finit dans la pauvreté, El Ouafi, et Mimoun le redécouvre en l'aidant. Il était devenu clochard, et il est mort assassiné quand même. Donc il est parmi les victimes d'une fusillade dans un petit café de Saint-Denis. C'était en 1957, en pleine guerre d'Algérie. Bon, après enquête, on a conclu à des luttes en défraction rivales du FLN. Hein. Bon, mais comme je dis, on est en pleine guerre d'Algérie. Bon, il repose au carré musulman du cimetière de Bobigny. Et on l'a redécouvert parce que la municipalité de Saint-Denis a inauguré une rue portant son nom en face du Stade de France. Voilà, le Stade de France. Un clin d'œil comme El Ouafi, vainqueur du marathon en 28 à Amsterdam. 56, on y reviendra plus tard, c'est la gloire française. Mimoun qui gagne le marathon de Melbourne. Et puis, moi, j'ai dit toujours Zidane en 98, d'origine algérienne, qui remporte la Coupe du monde de football.
Alors, nous sommes en
1928, on va dire qu'on a fini, on accélère un peu parce qu'on va surtout s'arrêter sur Berlin 1936, mais simplement dire que les Jeux...
Un mot sur 32.
Alors, 32, c'est Los Angeles. Et c'est ça. La cérémonie d'ouverture est imaginée par Walt Disney avec un personnage créé 3 ans auparavant, Mickey. C'est 32, c'est 3 ans après 29. On en a parlé tout à l'heure, la crise de 29. C'est quand même un défi face à la crise mondiale. Et on voit émerger quand même, bah, le Japon émerge par exemple. Ils avaient envahi la Mandchourie, une province chinoise. La Chine, elle n'existait pas sur la scène internationale à l'époque, mais quand même un Chinois, en réponse à cette invasion japonaise, avait voulu quand même aller, à titre individuel, faire le déplacement à Los Angeles. Moi, je retiens surtout de Los Angeles la force de l'Italie. Hein, l'Italie, en 1932, elle gagne beaucoup de médailles. Elle est derrière les États-Unis. Elle s'appuie sur une colonie italo-américaine. N'oubliez pas qu'on est en 1932, que Mussolini a accès au pouvoir en 1932, que c'est le sport, c'est pas un sportif Mussolini, mais le sport, enfin, on le voyait toujours en train de travailler les paysans en Ligurie, enfin, mais c'est le modèle italien qui émerge, c'est-à-dire il faut vraiment la discipline, le sport. L'Italie remportera la Coupe du Monde de football en 1934 et 1938. C'est le football qui émerge en Italie, alors que le vélo est une passion italienne aussi, hein, comme la passion française.
Le calcio
qui devient le football devient prioritaire en Italie, alors que ça a jamais été c'est les communistes et les catholiques qui ont récupéré le football en Italie. Ça, c'est des thèses que j'ai lues de certains écrivains connus comme Fabien Archambault, par exemple, qui a écrit sur l'Italie. Le sport en Italie, c'était le vélo. Comme en France, d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Le sport, la passion française et la passion italienne, c'était le vélo. L'Italie aura de grands champions cyclistes. Et voilà, on arrive à Berlin.
Et donc, on arrive à Berlin 36.
Tout à fait.
Contexte très particulier.
Oui. Alors, ils sont soutenus par les Jeux, quand même, par un Pierre de Coubertin vieillissant. Alors, ils sont percutés par la guerre civile espagnole. Oui. Et la tentative de coup d'État de Franco en 36. Et d'ailleurs, le sujet, c'était faut-il aller à Berlin, puisque Hitler accède au pouvoir en 33. On avait donné à l'époque, celui qui a remplacé de Coubertin, c'est un Belge, Bailly-Latour, le comte de Bailly-Latour, donc un aristocrate comme Pierre de Coubertin. Ils avaient donné les Jeux Olympiques à l'Allemagne en 31 pour qu'elle puisse se relever.
Se refaire.
Mmh. Mais bon, entre-temps, Hitler arrive au pouvoir. Lui, le sport, c'est pas sa tasse de thé. Mais par contre, tout ce qui est autour d'Hitler comprennent l'enjeu de faire des Jeux de 36, des choses très importantes. Par exemple, il y avait un Allemand, Karl Diem, le membre du CIO. Lui, il s'appuie sur les fouilles des Allemands. C'est les grandes fouilles que je parlais tout à l'heure.
En Grèce,
justement. Et donc, ils reprennent. Ils inventent, j'ai envie de dire, la course de la flamme, le relais de la flamme.
Donc, nous avons vécu, pour ne pas dire subi,
oui,
un grand renfort d'argent aujourd'hui,
oui,
et notamment dans notre département.
Oui, oui. Le relais de la flamme,
voilà,
qui passe.
On peut se demander à quoi ça sert. Ça n'a strictement aucune signification, à part que ça coûte beaucoup d'argent.
Ça coûte.
À une époque où peut-être on n'en a pas à perdre dans ce genre de choses. Les Jeux, certainement.
Ouais. C'est une exposition du département, peut-être, non ?
Oui.
Ou exposition aussi de Coca-Cola. Et...
Voilà, quand on voit que le département sucre régulièrement et de plus en plus ses subventions et qu'il y a une politique culturelle qui souffre terriblement, on se demande si là, il n'y a pas un peu de gabegie. Mais ça, c'est une question purement politique qui n'a rien à voir dans notre exposé, dans votre exposé, Gilles. Alors,
oui.
36.
Alors, 36, donc je vais donner quand même, avant que vous puissiez intervenir sur Jesse Owens avec nos amis journalistes de l'école de journalisme, c'est ça ?
C'est ça.
Très bien. Je pense qu'ils vont intervenir sur Jesse Owens. Donc,
et
avant,
bon, on les écoutera,
ils vont intervenir,
ouais,
dans quelques instants sur Jesse Owens, qui est ce qu'on retient des Jeux de 36. Mais je donne quand même déjà un petit peu le contexte, quand même. En France, le Front populaire, à l'époque, au pouvoir, qui avait créé un ministère de la Jeunesse et des Sports, il vote quand même le maintien du financement de l'envoi d'une délégation française à Berlin, malgré l'hostilité des communistes. Et parmi les socialistes, il y avait Pierre Mendès-France, qui était le plus jeune député à l'époque, il a tenu jusqu'au bout pour le boycott. C'est un des seuls socialistes. Bon, en France, on disait, après tout, Hitler n'avait-il pas promis de respecter la charte olympique ? Finalement, c'est ça, quoi. Mais en fait, tout le monde est dupé.
Il a promis beaucoup de choses, mais il l'avait déjà écrit dans Mein Kampf, d'ailleurs. Ouais. Hein.
Alors, l'ouverture des Jeux, c'est le 1er août 1936.
Ouais.
Mais avant, il y a eu une démonstration de force. C'est les Jeux d'hiver, le 9 février 1936, à Garmisch-Partenkirchen, dans les Alpes bavaroises, sous
donc,
la neige.
Ce seraient donc les premiers Jeux d'hiver ?
Non, 24, Chamonix. Et là, on est dans les autres Jeux. Il y a eu d'autres Jeux d'hiver. Maintenant, il y a Jeux d'hiver et Jeux d'été.
Ce qui fait que tous les deux ans, finalement, il y a des Jeux olympiques.
Tout à fait.
Qu'on soit à la montagne ou...
Les Jeux d'été sont plus visibles que les Jeux d'hiver. Enfin, on dit ça parce qu'on n'est pas norvégien ou suédois ou autrichien. Mais les Jeux d'hiver, très important pour les Allemands. Hein, l'Allemagne est seconde au nombre des médailles derrière, par exemple, la Norvège. 28 pays participent. Alors, les Jeux d'hiver, c'était déjà une répétition. C'est un triomphe de l'efficacité nazie. Et olympisme et propagande font bon ménage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois plus tard, la Rhénanie est envahie. Après, on revient sur les Jeux d'été. On est en août, le 1er août 1936. Donc un défilé militaire, beaucoup de parades d'organisation nazie, dans Berlin en Liesse.
Oui, ça ne sentait pas très bon quand même.
Non, le plus grand stade de l'époque, mais à l'époque, personne ne l'avait trop vu, ça. Parce qu'on était, on a été pris par ces jeux qui restent quand même des jeux un peu de référence. Le stade a été construit, il fait 100 000 places. Il y a un dirigeable Hindenburg, du nom du vieux général président, qui nomma Hitler à la chancellerie. Ben lui, il traverse tout le stade. On crée la caméra catapulte, les travelling. Il y a une cinéaste qui est affiliée. Il y a une cinéaste qui est affiliée au jeu, Leni Riefenstahl. Donc, il y a vraiment, il y a 49 pays qui viennent quand même. Il y a 4000 athlètes. Et l'Allemagne au total, elle rafle 80 médailles. Elle est la première devant les États-Unis. Donc, les Jeux de 36, ils anticipent la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant, en 34, en 35, en 36, on n'était pas dans ce contexte-là. Il y a eu certes, on a voulu créer des Jeux socialistes à Barcelone, mais il y a eu la guerre civile espagnole. Donc, je pense que contexte difficile, tendu. Ouais, mais on n'a pas. Il y en a qui l'ont vu, mais le parcours de la torche olympique. Il y a eu quand même une mise en scène avec des fêtes du feu, chères à la tradition germanique. Il y a eu l'émergence. On a montré la race aryenne. Vous voyez, qui s'apparentait à la cité grecque, à la cité militaire de Sparte et non pas Athènes. Vous voyez, on a mis en exergue vraiment quelque chose qui était des jeux. Extrêmement moderne au niveau technique et tout ça. Voilà, donc après on va peut-être revenir sur... moi je voudrais que vous interveniez donc avec les stagiaires, comme vous dites, sur Jesse Owens, qui est quand même quelque chose quelque chose dans la chaussure, quelque chose qui a empêché Hitler d'avoir
des petits cailloux dans
la chaussure. Et puis on finira peut-être, parce qu'il était au jeu de 36, Nakache.
D'accord.
Le nageur toulousain.
Alors qui c'est qui se colle là dans votre équipe, Mathis, Lydia, tous les deux ?
Attaquer.
Eh bien, on vous écoute.
Alors l'histoire qu'on va vous conter, c'est celle d'une figure du sport, de l'athlétisme et des Jeux Olympiques. C'est celle de James Cleveland Owens. Plus connu sous le nom de Jesse Owens, il est né en 1913 dans une famille pauvre d'Alabama. Il a montré un talent exceptionnel pour l'athlétisme dès son plus jeune âge. Owens a atteint son paroxysme sportif sur la scène internationale lors des Jeux Olympiques de Berlin, donc en 1936. Un événement qui représente bien plus qu'une simple compétition sportive. Ces Jeux Olympiques se tenaient dans un contexte géopolitique tendu. L'Allemagne nazie, sous la direction d'Adolf Hitler, voyant cet événement une occasion de démontrer la prétendue supériorité de la race aryenne. Et Jesse Owens, donc, un afro-américain, allait bouleverser ses ambitions de manière spectaculaire.
Lydia, travail partagé, si je comprends bien.
Exactement. Owens a remporté 4 médailles d'or, en 100 mètres, en 200 mètres, saut en longueur et relais 4 fois 100 mètres. Ses performances exceptionnelles ont non seulement brisé des records mondiaux, mais ont également défié la propagande nazie. Donc Hitler espérait utiliser ces jeux pour prouver la domination aryenne. Mais Owens, par son triomphe éclatant, a illustré la puissance et le potentiel de l'humanité indépendamment de la couleur de peau. Sur le plan géopolitique, ces victoires ont ébranlé les fondements du racisme scientifique prôné par les nazis. Aux États-Unis, bien que Owens ait été acclamé comme un héros national, il a continué à lutter contre la ségrégation et les inégalités raciales. Ses succès ont néanmoins inspiré des générations futures et ont contribué à l'avancement des droits civiques. Donc son histoire reste un puissant rappel des enjeux géopolitiques, du sport et de son potentiel à provoquer un changement social à l'heure où, justement, le monde est épris des tensions internationales.
Merci Lydia, merci Mathis, Gilles, oui. Ils ont bien travaillé.
Oui, ils ont bien travaillé, ça bon. Va, c'est parfait. Je rajouterai quand même quelque chose. C'est vrai, ils ont dit qu'ils viennent de cette petite ville située dans l'Alabama, dans le sud américain. Donc, il est petit-fils d'esclave, il est fils d'une famille modeste de métayers qui faisait la quête du coton. Alors, en 1929, je reviens toujours à cette fameuse crise, la famille émigre vers Cleveland, cité industrielle des États-Unis, ville industrielle du Nord. Owens, il faut imaginer qu'il était très chétif et rien ne le prédisposait à la course à pied. Alors, qu'est-ce qui fait que souvent, dans une carrière, dans le sport ou ailleurs, ça tourne bien, un signe du Dieu, quelque chose? C'est qu'à l'école, il a été pris en charge par un entraîneur blanc, professeur de mathématiques. Il l'a toujours considéré comme son deuxième père, qui l'a aidé. Et la carrière, il a fait une très belle carrière après. Mais il n'a pas été reconnu, finalement. Roosevelt, candidat démocrate, après la guerre, ne le reçoit pas à la Maison-Blanche.
Il était noir.
Il était noir.
Ça ne devait pas aider à l'époque.
Oui,
c'est ce qui s'est passé.
Mais il a quand même inspiré Carl Lewis, qu'on verra plus tard, qui a fait quadruple médaille d'or, qui est né aussi comme lui dans l'Alabama en 1961. Et donc, c'est intéressant la vie d'Owens. Et en 84, quand même, la petite fille d'Owens rallumera la flamme en 84. C'est quand même un clin d'œil de l'histoire.
Oui, un beau clin d'œil de l'histoire.
Voilà. Alors, je pense que vous me dites qu'il est 1h11.
Le temps avance à voilà. Grande vitesse. Mais on pourrait quand même parler de Nakash.
Oui. Justement, pour finir.
On finit avec Nakash. Alors, Nakash, tout le monde connaît la piscine ici.
Oui.
Mais derrière la piscine, il y a un homme.
Oui. Et il était justement aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et il a fini quatrième avec le relais 4 x 200 mètres nage libre français. À l'époque, il y avait de très bons nageurs hein, français, Taris, Cavalero, Tali. Les Français étaient devant les Allemands même. Alors, Nakash, il réussit en 1939 l'examen pour devenir professeur d'éducation physique. Il intègre ensuite l'école normale l'INSEP actuellement. Il épouse une femme, Paul, également juive, hein, qui s'est mariée. Il s'est marié en 1937. Et après la défaite de 1940, en tant que juif d'Algérie, il est déchu de la nationalité française. C'est ça qu'il faut. Le gouvernement de Vichy a abrogé le décret Crémieux le 7 octobre 1940. Hein. Les Juifs d'Algérie redeviennent des indigènes. Bon. Et finalement, il se réfugie en zone libre et il arrive à Toulouse, au Dauphin du Touareg, sous la direction d'un grand entraîneur dont on parle toujours, hein, même Léon Marchand, qui va sans doute rapporter 3 médailles d'or pour la France dans 2 mois. Et qui est au Dauphin du Touareg, eh bien, on fait référence souvent, Albin Mainville a été un entraîneur d'avant-garde. Enfin, ceci étant, toujours un petit clin d'œil sur, en 41, Jean Borotra, commissaire au sport du régime de Vichy, on en a parlé tout à l'heure, le basque bondissant, etc., etc., eh bien, l'amène dans une tournée en Afrique du Nord, où il est plusieurs fois choisi pour la levée des couleurs et donc, si vous voulez, Nakash, il passe quand même un peu dans les mailles. En 1942, il est 5 fois champion de France. Mais le 20 novembre 1943, il est arrêté par la Gestapo suite à une dénonciation. Et on est en 1943, il y a eu la rafle du Vélodrome d'hiver de Paris le 16 et 17 juillet 1942. Donc Nakash, il est retenu captif à la prison Saint-Michel, on n'est pas loin d'ici. Il est ensuite envoyé au camp de Drancy et il finit au camp d'extermination d'Auschwitz. Et par un convoi du 20 janvier 1944. On ne le sait pas, mais on le saura, sa femme et sa fille ont été sans doute gazées dès leur arrivée au camp, le 23 juillet 1944. Alors, comment Nakash a-t-il pu survivre? Il a affecté à l'infirmerie, ça lui a peut-être sauvé la vie. Il a pu rencontrer un journaliste, par exemple, un journaliste israélien qu'on connaît un peu de peu, qui l'a aidé à. Il résiste aux mauvais traitements. Forte humiliation, Par exemple, les gardiens l'obligent à aller chercher avec les dents un poignard qu'ils ont jeté au fond de la piscine. Les gardiens qui ne savent pas que Nakache est un grand nageur. Donc, c'est peut-être cet bassin de rétention d'eau qui était prévu pour les incendies qui l'a sauvé la vie. Et donc, je suis toujours impressionné. Et en janvier 1945, le camp où il était, finalement, est récupéré par l'armée rouge, sous ce qu'on appelle à l'époque les marches de la mort, hein, sous la menace de l'armée rouge. Nakache participe à l'une d'entre elles et au cours de laquelle les survivants des camps d'extermination sont menés dans des camps d'internement. Donc on le retrouve à Buchenwald et il est récupéré par l'armée américaine en avril 1945. Quand je passe tous les jours devant la piscine Nakache, je ne peux que penser à lui, sachant qu'il est mort quand il était en retraite, enfin si vous voulez, il est mort en nageant dans les Pyrénées-Orientales. C'est des doubles, triples questionnements de l'histoire ou clin d'œil de l'histoire, comme on veut.
Bien belle histoire, je vous propose... Oh, après ça, on ne peut plus rien dire, Gilles, donc je vous propose d'arrêter là. Je propose aussi à nos auditeurs, il y a des élections européennes bientôt, on a quand même beaucoup parlé aujourd'hui, finalement, en filigrane d'Europe, beaucoup. On a parlé aussi de certains débordements, en terminant par 36, en terminant par cette magnifique histoire de Nakache. Alors, peut-être que nos auditeurs peuvent y réfléchir avant de mettre un bulletin dans l'urne. C'est en tout cas ce que je souhaite. Eh bien, merci Gilles. Hein, c'était Cap, une Cap thématique, un spécial JO. On va se retrouver pour d'autres épisodes. Ce n'était que le premier épisode. Vous avez compris que Gilles est très armé. Alors, si vous avez quand même envie de poursuivre, Gilles, vous me l'avez indiqué, au musée de l'immigration de la Porte Dorée, il y a une exposition qui a été notamment montée, patronnée par l'historien Blanchard, qui a lui-même écrit un livre assez savant là-dessus, que Gilles a mené. D'ailleurs, il est très courageux, parce qu'on voit que c'est un sportif, parce que le livre est énorme, il me le tend. Ouh là là, c'est plusieurs kilos. Olympisme, une histoire du monde. Des premiers Jeux Olympiques d'Athènes, 1896, aux Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'on en parlera, de Paris 2024. Ça fait son poids. Et puis, il y a une expo au Louvre. Hein, oui, 3 kilos, me fait signe Gilles. Il y a une expo au Louvre jusqu'au mois de début août, je crois, de cette année. Olympisme, une invention moderne. Alors, vous voyez qu'il y a de quoi poursuivre cette conversation à saut et à gambade, comme disait Montaigne, que nous avons eue aujourd'hui avec Gilles et que nous reprendrons sur notre deuxième épisode 1948-1984, la décolonisation. Et surtout cette fameuse guerre froide. Voilà, à la technique, nous avions Léo Touroul, que nous remercions Gilles et moi. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. À bientôt à toutes et à tous.